I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Mec qui est le replay d'un live Twitch que j'ai eu avec Théo, comme vous l'avez vu dans le titre, où on discute à la fois de sa vasectomie, mais également du fait qu'il l'ait posté, le fait qu'il allait se faire opérer pour une vasectomie sur Twitter et qu'il a connu un buzz complètement dingue. Donc voilà, n'hésitez pas, on va discuter avec Théo de plein de choses, de pourquoi il a voulu faire cette vasectomie, de ce que ça lui a fait à lui de se retrouver avec une telle shitstorm puisque son post a eu plus de 4 millions de vues, enfin c'était assez dingo, et puis de pourquoi il trouve important de venir poster sur les réseaux sociaux aujourd'hui le fait qu'il se soit fait faire une vasectomie, quoi. Je vous laisse en compagnie de Théo et je vous dis à très vite.
Exécuté par
qui?
Fabrice Florent.
Bonsoir tout le monde.
J'espère que le son est bien, effectivement.
Le son, en tout cas de mon côté, est au top. Vraiment, pour les gens, ça fonctionne bien. C'est nickel. Merci. Merci les gens dans le chat. Ça fait plaisir. On est donc ce soir, entre gars contraceptés,
allez.
Laissez-moi vous dire qu'on représente une forme de licorne en termes de masculinité, parce que vous avez là deux gars vasectomisés. Est-ce que tu savais qu'il y avait 3000 vasectomies par an en France? Je ne sais pas trop comment ça se passe en Belgique, mais en France, il y a 3000 vasectomies par an, donc c'est vraiment pas beaucoup.
J'ai vu que ça augmentait pas mal, par contre, on m'a partagé beaucoup de stats. Et on y reviendra, mais un des trucs que j'ai été étonné, j'ai eu beaucoup de témoignages de gens que je connaissais plus ou moins bien, notamment du milieu du jeu de société, qui m'ont commenté en disant « Hey, bienvenue au club, hey, cool, moi aussi, ah, je l'ai fait il y a 2 ans ». Et j'ai eu plein de retours de mecs qui en parlaient un peu, ce qui était vraiment chouette.
Donc Théo, qui est avec moi ici sur votre droite, n'est-ce pas, à la droite de Théo, que vous pouvez entendre, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pourrait mettre par exemple le lien de l'épisode d'Histoire de succès qu'on a fait avec Théo, parce que Théo, dans la vie, tu es créateur de jeux de société.
C'est ça, effectivement. Que j'aime, c'est un métier que j'aime beaucoup, en tout cas. Je ne sais pas s'il est beau, mais il m'apporte énormément de joie.
Attends, bouge pas, je m'en occupe, je vais aller chercher.
Tu vas aller me retrouver.
Qu'on a fait ensemble. Dont je suis extrêmement fier, en plus, donc pour ne rien embêter. Hop. Et Théo, alors, donc on se connaît depuis écoutez, ce truc ne veut pas copier-coller, donc on va faire comme si, pour les gens qui écoutent en podcast, parce que en replay, je vous le mettrai dans les notes de l'épisode. Ce qui nous permet aujourd'hui, Théo, de nous retrouver sur cette chaîne, c'est que tu as, il y a la semaine passée, n'est-ce pas?
Oui. Mardi dernier.
Posté un tweet sur Twitter, donc sur ce réseau social qui souffle aussi bien le chaud que le froid, hein. Je crois qu'on
est compliqué parfois, ouais.
D'amour et d'haine, sur ce réseau, et tu as posté une photo de toi. Alors je vais vous la montrer, hein, bougez pas si jamais mon internet veut bien fonctionner. Hop,
accompagné d'une très belle Charlotte et d'une très belle robe.
Franchement, le style est total. Et alors, Théo, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir poster cette photo de toi sur Twitter, naguère ?
Il y a deux trucs, je crois. Le premier, c'est comme beaucoup de mecs, j'avais très 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 peur de l'opération. Et vraiment, j'ai mis longtemps à me décider parce que je flippais très très fort. Que quelqu'un touche à mon appareil génital dans un cadre médical. Vraiment, il y avait une angoisse qui était assez importante. Et je me suis réveillé de l'opération et vraiment, j'étais genre, ah oui, ok, bah, fastoche en fait, quoi, trop bien. Il faut que je prévienne les gens qu'en fait, c'est pas si dur, quoi. Donc vraiment, je me suis dit, au départ, je vais prévenir les gens autour de moi que, en fait, si vous hésitez pour les mêmes raisons qui me poussaient, moi, longtemps à hésiter de, oulala, j'ai peur d'avoir hyper mal, que ça soit compliqué, etc. Non, en fait, c'était ok, donc je vais le dire aux gens. Et l'autre, c'est j'ai une petite communauté sur Twitter. Je suis suivi par 3300 personnes, je pense, à peu près, au moment où je fais le tweet. Et c'est des gens que je connais un peu. C'est des copains et des copines d'Internet. C'est des gens du monde du jeu que je connais un peu. Et j'avais déjà évoqué que je faisais l'opération quelques jours auparavant ou en live sur Twitch. Et je me suis vraiment dit, ah, je vais prévenir les gens qui me connaissent que ça s'est bien passé, quoi. Comme, tu vois, j'ai envoyé le même message à mon père et à ma sœur, genre, coucou, tout s'est bien passé, je leur ai fait un petit vocal, tout s'est bien passé, c'était cool, gros bisous, je pense à vous. Et puis, oh bah tiens, je vais mettre sur Twitter aussi, un peu pour les mêmes personnes, quoi. Voilà, ça n'a pas eu le résultat exactement attendu.
Et en fait, c'est fou parce que... Déjà, il faut préciser un truc, mais ça, je vous mettrai pareil le lien dans les notes de l'épisode si vous écoutez ce podcast. C'est que on a fait un live il y a un an maintenant, je crois, avec deux autres gars vasectomisés et on s'est retrouvés à trois à ne pas avoir du tout la même anesthésie, la même opération. On n'a pas eu du tout le même vécu de l'opération. Moi, par exemple, l'une des raisons pour lesquelles j'ai attendu 4 ans. C'est que j'avais peur, j'appréhendais. Et en fait, le Toubib m'avait dit, mais c'est en local, mon gars. Donc, on vient te piquer dans les couilles. On vient te... Enfin, c'est pas dans les couilles, bien sûr, mais c'est autour. On vient te... Il m'avait pris le canal déférent, tu vois, en live, tu vois. Il m'avait dit, tu vois, là, c'est ça qu'on va tirer, tu vois. J'avais fait, ah, oui.
Ouais, voilà. C'est marrant parce que un des moments où je me suis dit, OK, je vais faire l'opération, il faut que je me renseigne, etc. J'avais lu ton témoignage que tu avais écrit sur ton blog, je crois aussi, en témoignage écrit. Et en le lisant dans le train, genre à un moment où je prenais le train à 7 du matin à Jeun en ayant bu juste un café, j'ai un peu tourné de l'œil, vraiment de me dire, ouah, pas, je suis pas tombé dans les pommes, tu sais, mais j'ai eu ce moment où tu fais, ouh, je suis pas bien là, je vais arrêter de lire ce truc, je finirai plus tard. Et je me suis dit, OK, il faut que je me renseigne bien parce que là, ça me met quand même un peu mal à l'aise. Il faut que je vois bien si je suis capable d'endurer cette opération, quoi.
Faudrait d'ailleurs que je le mette à jour. Effectivement, je savais pas moi à l'époque parce que c'était la seule expérience que j'avais. Je suis allé voir un urologue, tu vois, et lui m'a même pas laissé le choix, tu vois. C'est-à-dire que ouais. Si j'ai bien compris le tien, il t'a dit bon bah il y a ça. Et à vrai dire, à titre personnel, j'aurais préféré dormir, voilà, clairement, ouais. plutôt que de sentir en direct, tu vois, le gars qui te dit. Ah, ça vous tire. Là, normalement, ça devrait vous tirer dans le bas-ventre. Et je lui dis non, ça, c'est les couilles, docteur. Ça, c'est pas du tout le bas-ventre. Et effectivement, je le sens très bien, quoi.
Effectivement, moi, il m'a laissé le choix. J'ai fait un premier rendez-vous avec l'urologue qui m'a dit bah, ça peut être sous anesthésie générale ou locale. Il l'avait fait lui-même, donc il pouvait en plus me témoigner de lui, il l'avait fait sous local. Et j'ai discuté avec lui. Je lui ai dit un des trucs, c'est ça me stresse quand même pas mal. Donc je crois qu'en général, ça m'inquiéterait un peu moins. Il m'a dit, on peut partir sur ça. Et j'ai eu un peu plus tard rendez-vous avec une anesthésiste. Et je lui ai dit, voilà, je me sens un peu nul parce que j'ai envie de le faire en général parce que je suis stressé. Mais je me dis qu'en local, c'est peut-être mieux en termes de ce que mon corps va endurer. Elle m'a dit, non, vous êtes jeune, en bonne santé, plutôt sportif. Faites une anesthésie générale, ça sera presque moins contraignant pour votre corps qu'une locale où il faut faire une locale quand même un peu vénère et vous allez mettre un peu de temps à vous remettre, quoi. Et donc vraiment, c'est eux qui m'ont convaincu tous les deux en me disant « Ok, j'aurai un peu moins peur. » Et en plus, a priori, c'est pas infiniment plus néfaste, voire un petit peu mieux pour mon corps.
Ouais. Et en plus, globalement, effectivement pour le corps, mais aussi pour le cerveau. Parce que moi, vraiment, c'est un moment que j'aurais préféré ne pas...
Tu vois, le
« cannot be unseen », quoi, tu vois.
Ouais.
Bon, et donc, tu postes ce truc.
Ouais.
J'imagine avec plein de bonnes intentions pour répandre la bonne parole. Et en fait, je trouve ça trop cool en plus, parce que c'est un truc qui est encore relativement rare, de venir dire, voilà, j'imagine que tu l'as pas fait pour le poster sur Twitter, j'imagine.
Plutôt pas, effectivement. Et je me suis même tâté, hein, vraiment, il y a un truc de... J'ai fait relire mon tweet par Elodie, ma copine, en lui disant, tu penses que c'est OK, je peux mettre ça, qu'est-ce que t'en penses? Elle m'a dit, non, c'est cool, t'inquiète, vas-y, envoie, ça va... Ouais, c'est un petit texte, OK, vas-y, tu peux envoyer, quoi. Et donc, vraiment, j'avais un peu de... J'avais pas des grosses réticences, mais je me suis dit, tiens, est-ce que c'est à moi de faire ça? Ah oui, on n'en parle pas beaucoup, vas-y, je fais un petit post, mais je pensais vraiment toucher les 2000 personnes autour de moi, et ça s'arrêtait là, quoi.
En gros, tu me disais, 4 millions de... c'est ça, 4 millions de personnes qui ont vu ton tweet?
Ouais, là, en termes de portée, sur Twitter, il y a un chiffre où tu peux voir le nombre de feeds sur lequel ça s'est affiché, je pense. Et c'est 4,5 millions à peu près. qui est un peu plus que mes tweets habituels où je dis hey, regardez, j'ai sorti un nouveau jeu de société, gros bisous, jouez-y, c'est bien. Ou clairement, je touche vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de gens, quoi.
Tiens, il y a une question que je ne t'ai pas posée et j'aurais bien aimé savoir, c'est bah, tu as commis alors que tu n'as pas d'enfant, qui pour moi, ce n'est pas le cas, tu vois. J'avais déjà deux enfants et je savais pertinemment que, ok, cette case-là était cochée et globalement, si c'est possible de ne plus jamais y remettre les pieds, c'est très bien. Qu'est-ce qui t'a incité, toi, à passer à ce truc ? Parce que l'un des trucs dont on me parle souvent quand je parle de ma vasectomie, c'est, ok, c'est vraiment un truc définitif. J'ai vu beaucoup de femmes, notamment, tweeter, mettre sur Instagram, notamment au moment de l'IVG, tu vois. Bah ok, en fait, si vous voulez globalement être contre l'IVG, bah venez, faites une vasectomie. Mais les gars, c'est pas réversible, en fait, la vasectomie. Donc il faut vraiment, il y a un vrai. Bah, on va sans doute en parler, mais il y a un manque de connaissances. Moi, en tout cas, le Toubib, ce qu'il m'avait dit, c'est bah, faut vraiment partir du principe que une fois que tu l'as fait, normalement, tu as une chance sur deux que ça ne marche pas. Et même si tu as l'opération réussie, tu perds énormément en fertilité, quoi. Donc,
ouais, et moi, il a été pareil. Il a été, parce qu'il y a cette espèce de mythe du fait que ça soit réversible. Et moi, l'urologue a été vachement pédagogue. Il m'a dit... c'est à peu près autour de 75% les deux premières années. Mais dans tous les cas, il faut se refaire opérer. Donc, c'est quand même un truc un peu lourdingue quoi, à faire, dans l'absolu. Et puis, je suis assez content de m'être fait opérer. Je suis assez content de ne pas le refaire, dans l'absolu. Et après, il y a une autre solution qui existe, c'est une vasectomie enlève le lien entre les spermatozoïdes et le sperme, mais enlève pas la production de spermatozoïdes. Donc, c'est possible avec une grosse aiguille qui fait peur. Il ne m'a pas dit ça comme ça, mais l'urologue, il m'a vraiment dit un peu genre... Mais voilà, faut mettre une aiguille, c'est pas le meilleur moment, quoi. Et d'aller chercher des spermatozoïdes là, ils sont stockés, et de faire une fécondation in vitro. Donc il y a toujours la possibilité de faire une FIV, qui est aussi un processus long, compliqué, et plein de contraintes, donc qui recommande pas dans l'absolu. Mmh. Mais il y a toujours ce truc de, et quand j'ai tweeté, il y a plein de gens qui ont eu ce retour de dire « Ah non, mais vous inquiétez pas, c'est réversible, c'est cool. » Alors non, il faut vraiment pas partir de ce postulat, et effectivement, moi, l'urologue a été vraiment très... très très au clair sur ça, de c'est une opération qu'il faut considérer comme définitive.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Il y a des voies de réversibilité si vraiment il y a un gros truc et que d'un coup la décision elle est vraiment dramatique et tragique pour quelqu'un. Il y a un chemin long et compliqué à parcourir. Il y a d'autres possibilités, mais il faut partir du fait que ça soit impossible de revenir en arrière, quoi. Ce que j'avais bien en tête au moment où je l'ai fait, heureusement d'ailleurs.
Et le fait d'être nulle part, t'as conscientisé le truc et de te dire « Ok, c'est vraiment un truc, moi, je veux pas passer par la case de devenir papa un jour ».
Ouais, clairement, c'est une grande discussion de couple qu'on a eu beaucoup à deux avec ma conjointe.
C'est mieux.
Avec qui je suis. Ouais, c'est mieux, ouais. Avec qui je suis depuis en plus vraiment longtemps, donc c'est une discussion qu'on a amorcée plusieurs fois, qu'on a déjà discuté assez vite à se dire « Oh, tiens, là, c'est marrant, il y a des enfants un peu autour de nous, est-ce que nous, on a envie ? Ouais, non, bof, ok, on verra plus tard. » Puis on est revenu plus tard, on a rediscuté un peu sur le long terme. Et à un moment, on a eu cette décision de se dire, bah, ouais, non, vraiment, on ne veut pas d'enfants, on n'en fera pas. Et en se disant, bah, ouais, je suis sûr, ouais, moi aussi, ok, bah, la décision est actée. Avançons sur ce que ça signifie et comment est-ce qu'on va construire notre vie derrière tout ça. Mais clairement, ça a été un truc vraiment réfléchi et dans la durée, pour le coup.
Et l'envie pour toi de passer à la vasectomie, il y avait aussi un truc de libérer, j'imagine, ta compagne de toute idée de contraception, c'est ça ?
Ouais, 100%. Et c'est ça le trigger principal. C'est Elodie, elle a eu plusieurs contraceptions différentes, sans que je m'en questionne pendant des années, quoi. Et à un moment, vraiment, sa pilule se passait pas très bien. Elle est passée par une autre pilule, puis par un autre moyen de contraception. Et là, elle a rechangé par une nouvelle pilule il y a quelques mois. Et ça l'a, ouais, au niveau santé, ça lui a fait du mal, quoi. Et ça continue d'être un peu désagréable, assez douloureux, un peu problématique sur plein d'aspects. Et donc, avant, c'était, bah, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger ta situation? lançons un chantier de qu'est-ce qui peut se passer pour que toi t'ailles mieux. Ok, bah faudrait changer ce moyen de contraception qui te convient pas non plus, mais on a déjà essayé 4. Merde, faudrait trouver un autre truc. Bah sur quoi est-ce qu'on peut partir? Ah bah il y a ça. Ah bah il y a la vasectomie. Ok, bah on se renseigne. Bah pragmatiquement et un peu froidement, mais je crois que ça a l'air d'être le truc qui gagne haut la main quand on compare tout ce qu'on veut et notre situation. Ok, bah alors dans ce cas-là, c'est ça qui est parti, quoi. Et avec une notion qui, moi, me faisait plaisir, et lui faisait plaisir aussi dans l'absolu, mais qui n'était pas prépondérante, de se dire, ok, c'est aussi de l'acte qui a l'air d'être le plus simple, et en plus, c'est moi qui le fais, donc j'en assume une partie. Mais il y avait une notion de, si demain, on avait fait ce même un peu constat, de regarder, et qu'il y avait un super truc contraceptif pour les femmes, hyper pratique, qui n'était pas contraignant, qui ne demandait pas d'y penser tous les jours, qui marchait mieux pour Elodie, et qui était moins contraignant que la vasectomie, on serait peut-être parti sur ce chemin-là, quoi. Mais il y a vraiment, on pèse le pour et le contre de tous les moyens de contraception, bah c'est ça qui gagne la main. Ok, bah c'est parti. Encore mieux, comme ça, c'est moi qui assume. Après que toi, t'aies assumé ta pilule pendant des années, quoi.
Et alors, l'autre truc qu'il faut dire, c'est que la ligature des trompes, par exemple, qui est l'équivalent de la vasectomie pour les femmes, est beaucoup plus contraignant et invasif. Ouais. C'est une opération beaucoup plus lourde, quoi.
Clairement, il y a des témoignages que j'ai eus sur Twitter après mon tweet où il y a beaucoup de femmes qui sont venues en parler aussi, ce qui était vraiment très, très intéressant et très enrichissant. A priori, c'est l'enfer pour trouver quelqu'un qui accepte de le faire, surtout pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Et dans ma situation où j'ai 31 ans, Elodie en a 32, donc on est encore relativement jeune. Donc il y avait aussi un truc de... C'était certain que ça allait être un parcours du combattant au moment où Elodie serait lancée dans cette opération-là. Là où pour moi, c'était... On y reviendra peut-être, mais... vraiment pas très compliqué du tout, quoi.
C'est fou parce que en fait moi j'ai une amie par exemple qui s'est fait ligaturer les trompes, qui a pas d'enfant et qui me disait en gros il y a une liste de chirurgiens, alors notamment sur Paris, qui sont connus et qui ont fait tourner en fait au sein de la communauté des gens et entre amis, quoi, tu vois, parce que ouais. C'est vraiment très très compliqué, quoi. Ceci dit, quand j'avais parlé moi de ma vasectomie, j'avais reçu pas mal de messages aussi de mecs qui disaient qu'en fait eux étaient nullipa et qui cherchaient à se faire vasectomiser et qui se retrouvaient avec des chirurgiens, des urologues qui, alors certes, ne les envoyaient pas bouler, mais jouaient la montre, quoi, très clairement.
Ouais. Et en toi, France, il y a un délai, non, de fais ton premier rendez-vous et c'est 4 mois plus tard, c'est ça?
C'est 4 mois de réflexion obligatoire. Ce qui est un peu, tu peux le voir comme infantilisant si tu veux, d'un certain côté, mais je trouve ça aussi intéressant de se dire ok, c'est un truc que la loi en fait t'oblige à réfléchir un minimum, même si a priori en fait tu le fais, quoi, tu vois, parce que t'es
Le fais un peu avant, mais 4 mois c'est pas horrible. Je pense pas qu'il y ait ça en Belgique, en tout cas moi j'ai pas eu de délai, j'ai même été assez surpris parce que j'avais ça en tête, et quand je suis allé voir mon urologue c'était cet été. Et donc j'y vais, je fais le rendez-vous, on discute assez longuement quand même des raisons, tout ça, il me pose quand même quelques questions. Puis très vite, il me dit un peu, après c'est votre choix, je suis pas là pour juger, si c'est votre choix, c'est parti, aucun problème. Ah, par contre, je suis un peu occupé là, donc je pense que je peux pas planifier l'opération avant début septembre. J'ai un peu fait, je voulais dire dans 4 semaines là, parce que je m'étais planifié sur c'était pas tout de suite, quoi. Et donc, en partie parce que j'avais des déplacements pour le boulot, parce que ça se calait pas bien, et je voulais le faire à un moment où j'étais un tout petit peu au calme, même si j'ai pas trop réussi à faire ça.
T'avais peur un peu?
Je voulais avoir un peu ce temps de réflexion, et je voulais être, je voulais pas être entre deux gros trucs de taf, parce que aussi j'avais pas bien conscience d'à quel point ça allait être incapacitant après. Et donc, j'avais potentiellement un week-end un week-end jeu où tu te mets avec des gens et tu joues pendant tout un week-end avec des potes le week-end juste après l'opération. Et je me suis dit, je me fais opérer le mardi. Je crois que je me sens pas de faire 5 heures de train et d'aller me poser et de faire des choses. Donc j'ai quand même un peu pris une semaine un peu de stase comme ça pour me dire, je me laisse le temps de respirer, je sais pas comment je vais être. Et au final, je suis plutôt en pleine forme. Mais je me laisse un peu de quoi de respirer. Et donc ça m'a permis de décaler de septembre à novembre, du coup. Et donc j'ai eu un peu ce délai de réflexion qui est arrivé naturellement, de me dire, ok, je l'ai pas légalement, mais je vais un peu me le créer, en fait. Et comme ça, je vais avoir ce petit moment pour réfléchir. Et puis pour m'assurer que ça soit la bonne décision dans ma tête aussi, quoi.
Ok. Il y a Foncé qui te demande, est-ce que tu en as parlé à ta famille, à ton entourage, et comment ça a été pris?
Ouais, alors j'ai une toute petite famille, donc j'en ai parlé à ma sœur et mon père, qui sont mes deux seuls membres de la famille. Ma sœur l'a très bien pris, on s'entend extraordinairement bien, c'est vraiment quelqu'un de très important dans ma vie. Et elle savait déjà que je voulais pas d'enfants, que c'était définitif et que voilà, elle comptait pas là-dessus. Elle a trois enfants en plus, donc elle voit complètement ce qu'est, comment ça se passe. Et il y a un côté de, on a beaucoup échangé sur la notion de famille, etc. Donc vraiment, ma sœur, c'était parfait. Mon père, ça a été un peu plus compliqué, alors que je l'imaginais pas, parce que je lui en ai vraiment parlé, genre à l'arrache sur un parking, alors qu'il venait me chercher à la gare ou un truc dans le genre, en disant ah ouais, je vais sûrement me faire opérer là parce que j'ai un peu envie de me faire opérer des yeux et de me faire faire une vasectomie. Et donc bah, je vais sûrement faire la vasectomie d'abord parce que je me dis que c'est plus facile à faire quoi. Et vraiment, j'ai discuté de ça comme ça, relax avec mon père comme si c'était un truc. Il m'a un peu dit ouais, fais les yeux mon grand, fais les yeux d'abord là, fais les yeux. On verra plus tard pour la vasectomie. Fais les yeux parce que quand même, il faut que tu réfléchisses plus quoi.
Mais c'était c'était aussi une façon pour toi de peut-être esquiver le sujet, de lui dire tiens, en fait, il y a ça aussi, tu vois, en passant.
Je sais pas, il y avait vraiment un truc de, mais un peu naïf hein, de ma part, mais de, pour moi, il y avait presque pas de sujet quoi. De, c'était tellement acté, c'était tellement clair. De, j'ai déjà évoqué plein de fois le fait que je voulais pas faire d'enfant et donc c'était clair pour toute la famille quoi. Et un peu pour tout le monde autour de moi avec qui j'ai eu l'occasion d'en parler. Donc il y avait un truc de ah oui, bah, c'est juste une étape dans ce processus-là. Quoi. Et donc je pense que ça a un peu plus sorti mon père que ce que j'aurais imaginé. Mais j'en ai un peu reparlé. J'en ai pas fondamentalement reparlé avec lui, mais il savait que l'opération était planifiée, c'était assez OK. Et quand j'ai envoyé mon premier message avant le tweet sur notre conversation familiale, il était genre ouais, cool, bravo, bisous, pas de problème. Quoi. Il n'y avait pas un vrai stress familial. Quoi, mais, ouais. Mais là où pour moi il y avait presque un truc de formalité dans mon processus de vie, de se dire ok bah c'est l'étape d'après, la première étape c'était de prendre cette décision, la deuxième c'est de le faire. C'était un peu plus bouleversant pour lui que ce que j'aurais imaginé effectivement.
C'est un peu l'idée de mon fils va pas procréer, l'idée de l'héritier peut-être derrière ou même.
Peut-être un peu. Je crois qu'il y avait un peu un truc de défense aussi de se dire fais pas une bêtise de. Prends le temps, te plante pas, je vois ce que tu fais, je vois comment t'es, mais attention, piano, fais pas une connerie que tu vas regretter après, quoi. Donc, je l'ai plus perçu comme un truc paternel désagréable sur le moment, mais positif dans l'absolu de, je veux défendre mon fils pour qu'il soit heureux, plus que comme un truc un peu lent, la famille, c'est, il faut que tu fasses des petits enfants et c'est parti. D'autant que, comme du côté de ma sœur, on est très très bien servi avec ses trois enfants. Il y a un truc de, c'est bon, mon père est grand-père, il voit comment ça se passe et il est ravi de ce côté-là. Quoi.
L'aspect définitif fait peur vraiment, vraiment à plein ouais. de gens. Je peux comprendre en plus. Et peut-être que ton père, tu vois, je ne sais pas quel âge il a, mais j'imagine 60-70 balais, quoi.
Ouais, il a 60... On est en 2022, il a 64 ans.
Ouais, tu vois, il y a un côté, ok, la vie est longue, mon gars. Et j'ai peut-être une anecdote à partager ici, que j'ai jamais partagé nulle part. Mais en gros, donc moi, j'ai fait une vasectomie en 2019. Je me suis séparé de mon ex-femme, de la mère de mes filles, en début 2020. Et là, j'ai retrouvé quelqu'un depuis 6 mois. J'ai une fille dont je suis fou amoureux, en fait. Et elle ne peut plus avoir d'enfants, elle, ou elle n'en veut plus. Elle a 2 enfants et moi non plus. Mais vraiment, je crois que ça m'a sauté au visage cet été parce que vraiment, on était super bien, tu vois, au bord de la piscine et tout. Et je crois que ça m'a sauté à la gueule de me rendre compte qu'en fait, je pourrais jamais avoir d'enfant. Alors, j'en veux pas, tu vois, mais il y a vraiment un truc de, ok, en fait, c'est sûr, je pourrais jamais faire d'enfant avec elle, alors que je suis fou amoureux d'elle et que s'il y a bien quelqu'un avec qui j'ai envie de faire des enfants aujourd'hui ou si j'aurais envie de faire des enfants, ce sera avec elle. Et ça m'a mis une petite claque dans la gueule, quoi, tu vois. Je l'avais jamais ressenti comme ça aussi fort en me disant, ouais, c'est vrai, il y a vraiment un truc définitif. Tu vois, j'ai senti l'aspect définitif dans...
Ouais, je comprends. Moi, j'ai un truc qui m'a fait un peu de bien sans... J'avais déjà un peu réfléchi, mais j'en ai parlé un peu sur Twitch, du coup, cette semaine. On a évoqué un peu Twitter et puis l'opération dans l'absolu. Et c'est marrant parce que c'est un argument qui est revenu pas mal sur Twitter sur le... Ah non, mais il y a des gens qui peuvent pas avoir d'enfants, ils le vivent mal. Le fait que toi, tu le fasses volontairement, c'est une insulte pour eux. Et je trouve que j'ai un viewer qui est régulièrement là, que j'aime bien, qui est très sympathique, qui pose dans le chat disant un truc genre... Ah non, mais moi, je peux pas avoir d'enfant techniquement, donc j'ai pas eu besoin de le faire, quoi. Et je lui dis, ah bah, vraiment, je suis désolé pour toi. Et il m'a répondu, bon, t'inquiète, on a adopté 2 enfants et on est hyper heureux, en fait. Et je me suis dit, ah ok, si jamais j'ai un vrai gros changement, et c'est déjà un truc qu'on avait un peu évoqué avec ma conjointe en se disant, tiens, si jamais on a envie d'avoir des enfants, est-ce que les adopter, c'est pas une bonne solution? Est-ce que c'est pas un truc qui fait du bien dans l'absolu et qui dans lequel on pourrait se retrouver? Et on avait déjà évoqué le ouais, peut-être que c'est un truc qui pourrait nous convenir un jour. Donc ça m'a permis de me dire aussi, ok, bah là je suis certain que je veux pas d'enfants. Je suis aussi certain malgré tout que les gens peuvent changer d'avis dans la vie et que peut-être que dans 25 ans ou dans 10 ans, je me dirais merde, j'aurais dû faire des enfants. Mais je crois que je suis assez certain aussi qu'à ce moment-là, je me dirais ok, bah en fait, on passe par un processus d'adoption ou par un autre processus pour que on arrive à construire ce cocon familial que là on désire pas, mais d'une autre manière et d'une manière qui nous correspondrait même peut-être un peu mieux, quoi.
Il y a Do Dupont qui dit « Je pense que l'amour peut passer par autre chose que les enfants. » Et franchement, je suis mille fois d'accord avec toi. Hein. C'était surtout pas ce que je voulais dire. C'était juste que j'ai senti vraiment, et crois-moi vraiment, si j'ai fait une vasectomie, c'est pas par hasard. Mais si tu veux, ça a vraiment duré genre un quart de seconde, une demi-seconde, que ça m'a ouvert un truc en moi de « Ok, en fait, zut, tu vois, une forme de petit deuil, en fait. » Et effectivement, l'amour peut passer par plein d'autres choses. Et je m'en rends compte, puisque de toute façon, j'aurai jamais d'enfant avec cette personne et que je l'aime de ouf, quoi. Et il y a Foncé qui dit un autre truc aussi que je trouve intéressant, c'est en fait surtout que ce qu'on fait à notre corps n'enlève rien aux autres. Et ça, c'est assez vrai, quoi, clairement.
Ouais, clairement. Je te coupe juste, j'ai eu la prise de conscience un peu inverse qui était assez chouette. J'étais en déplacement pour le taf en Suisse juste avant l'opération. Et je rentrais le lundi soir pour me faire opérer le mardi matin. Et j'étais dans le train entre Genève et Paris. Et c'est un trajet un peu long, c'était un peu chiant. Et s'installe devant moi une petite famille qui, je pense, devait avoir 35. Ils avaient l'air d'avoir entre 30 et 35 ans, donc plutôt dans ma gamme d'âge. Avec une gamine qui était mais vraiment très très chouette, quoi. Une gamine qui devait avoir, je pense, un an ou un an et demi, qui commençait à jouer, lui disait un peu des livres. Et eux, ils étaient adorables. Elle faisait un peu de bruit, je sentais que ça les gênait un peu, alors que ça me dérange jamais les enfants qui font du bruit dans le train, quoi. Ils font jamais complètement exprès et c'est parfaitement ok. C'était vraiment pas insupportable. Et vraiment, il y avait ce truc de cette gamine, tu sais, quand t'es dans le train et qu'il y a un gamin qui te regarde un peu, alors tu le regardes un peu derrière ton bouquin et puis tu le check et c'est assez agréable de ces moments un peu de complicité avec des gamins que tu connais pas. Et c'était intéressant parce que c'était un cool moment et je me suis dit, ouais, en fait, je suis sûr. Et il y avait vraiment, c'était presque, je crois pas du tout au destin ou à quoi que ce soit, mais c'était presque mon ultime épreuve d'être confronté à un couple qui ressemble au mien, avec une gamine qui avait l'air vraiment très chouette et où tu te dis, ouais, c'est une chouette gamine, elle a l'air rigolote, elle empile les jouets, elle lit des petits bouquins pour enfants, ça a l'air d'être un bon moment. Ouais, je crois en fait, c'est bon, je suis sûr, c'est bon. Même une gamine aussi mignonne qui, dans l'absolu, me fait fondre sur sa qualité d'enfant chouette, où tu te dis, ah tiens, je ferais bien un jeu de société avec elle et je lui dirais bien une histoire, ça, je suis sûr que ça serait un cool moment. Je me suis dit, ouais, non, en fait, je suis certain. Et c'était intéressant d'avoir cette presque dernière épreuve sur le chemin avant la décision définitive, quoi.
Trop cool. Et en plus, l'un des trucs, je crois, qu'on oublie, ou en tout cas dont on ne parle pas assez dans notre société, c'est que tu peux transmettre de plein d'autres façons. Et notamment, bah, tu vois, tu racontais peut-être que tu avais des neveux et nièces, c'est ça?
Ouais, tout à fait, j'en ai trois.
Bah voilà. Et en fait, tu les récupères pendant un jour ou deux. Il y avait une de mes collègues chez Mademoiselle qui avait pas d'enfant, qui racontait qu'elle était trop heureuse parce qu'en fait, elle récupérait ses deux nièces pendant un week-end. Sa sœur, elle était trop contente parce que elle pouvait faire autre chose et vivre sa vie de femme à ce moment-là et plus de maman. Et que elle était trop heureuse parce qu'elle pouvait les rendre, en fait.
Ouais, exactement. Et vraiment, j'aime vraiment beaucoup les enfants. Tu vois, j'ai une affinité assez naturelle de quand il y a des enfants avec des couples de potes, bah, j'aime bien parler un peu avec eux. S'il faut lire une histoire, je suis toujours ok. S'il faut faire un petit jeu un peu débile, ça me va de me poser une demi-heure et de jouer avec les gamins. Tu vois, il y a vraiment un truc de, dans l'absolu, je suis vraiment à l'aise avec le contact avec les enfants et c'est un truc que j'apprécie. Et donc là, de pouvoir avoir cet avantage-là, notamment avec mes neveux et nièces, de, ok, bah, je profite avec vous, tout se passe bien. Puis à un moment, ils sont un peu chiants ou il se passe un truc ou ils tombent, ils se font mal ou ils commencent à s'engueuler parce que moi, il y en a trois. Donc, trois enfants, ça crée clairement régulièrement de la dispute. Il y a un côté de « c'est bon, not my job ». Alors évidemment, j'ai de l'empathie. S'ils se font mal, je les aide à aller mieux. Hein, mais si à un moment, ça dépasse un espèce de truc de « c'est compliqué, c'est désagréable », je peux me dire « ok, bah, je m'arrête là et les contraintes, elles ne sont pas là ». Alors, c'est affreusement égoïste, hein, mais il y a un truc de « j'ai tout l'avantage des enfants de ma sœur ». Et Dieu sait qu'il y en a, et qu'est-ce que c'est agréable de passer des moments avec eux et d'échanger et de partager. Mais j'ai pas les inconvénients au moment où moi ça me déplairait trop, quoi, c'est sûr.
Puis c'est pas égoïste en plus, tu vois. Je trouve pas, enfin, tu vois, quand tu dis c'est égoïste, je crois pas. Pour moi, il y a un côté.
Je prends un peu tout le bien en laissant le moins bien pour ma sœur, quoi.
Bah, c'est elle qui a choisi en même temps.
C'est vrai.
L'autre truc dont je t'ai pas parlé, c'est est-ce que l'urologue t'a parlé de prélever des spermatozoïdes pour faire un don?
Non, pas du tout. Et j'ai été un peu étonné parce que je l'ai vu après passer sur Twitter, justement, des gens m'ont dit « Ah, est-ce que tu l'as fait ?» Et l'urologue a zéro évoqué le sujet, donc je ne sais pas si je l'aurais fait ou pas. Clairement, ça aurait été une question. Je crois plutôt oui que non, mais j'ai pas eu le truc avant, donc ça n'a pas fait partie de ma réflexion, en tout cas.
Ok. Bah, alors, pour les gens intéressés, moi, j'avais fait deux épisodes avec l'Agence de la biomédecine. Un côté, un daron qui lui était stérile et en fait dont la femme a reçu du sperme en fait pour pouvoir concevoir leurs deux enfants, et de l'autre un mec qui a donné, et j'avais adoré vraiment faire ces deux épisodes, donc je mettrai les liens dans les notes si ça vous intéresse, parce que c'était hyper intéressant. Et bah, pareil, moi en fait on me l'a pas proposé, et je trouve que c'est dingue en fait que je crois que je l'aurais fait en plus, tu vois, parce que c'était juste tiens, cadeau. Je trouve que j'ai plutôt des beaux enfants, et en fait en vrai mes gènes ils valent la peine, sauf peut-être pour les garçons à base de calvitie, mais globalement je trouve ça ouf en fait que tu vois en 2000, parce qu'en plus il y a des besoins, tu vois,
ouais.
Je trouve qu'en 2022 il n'y a pas un parcours, tu vois, une sorte de charte. Alors je sais pas trop comment ça se passe en Belgique, tu vois, mais ça a l'air d'être à peu près pareil en France, quoi, tu vois, donc fort dommage.
Ouais, clairement.
Tu nous racontes un petit peu, donc une fois que tu postes, pour revenir à la chronologie de ce tweet, une fois que tu postes ça, j'imagine que tu as d'abord ta commu qui réagit avec bienveillance, etc. Enfin, j'ai regardé un petit peu les premières réponses, en tout cas, ça a l'air d'être plutôt des gens qui sont, comme tu disais un peu plus tôt, dans ta bulle.
Ouais. Mais clairement, après... ça commence comme ça, tranquillou, et vraiment, c'est chouette. J'ai à la fois des gens qui m'écrivent pour me dire « Ah cool, merci, c'est chouette d'en parler, on n'en parle pas assez souvent », et puis des gens plutôt sympathiques et agréables qui relèvent le geste en disant que c'est cool, donc bah trop bien, tout va bien, quoi. Puis je suis retweeté par quelques copains et copines qui ont des communautés un peu plus grandes, je crois que c'est ça qui trigger un peu le début de la fin. Et je me souviens je marche avec Elodie, et je lui dis « Ah bah tiens, j'ai un premier retweet un peu froid, tu vois, je sais plus, c'était quelqu'un qui était pas spécialement pour le truc et pas spécialement pour le fait que j'en parle, mais vraiment pas très désagréable, quoi, quelqu'un qui dit genre, je sais plus, mais un truc vraiment léger. Elle me dit, ah, j'espère que t'auras pas trop de personnes un peu vénères, quoi. Je fais, oh, tu sais, normalement, ça devrait aller, quoi. Et vraiment, je crois que c'était le soir où ça a vraiment explosé. Ouais, c'était ça. Elodie était pas avec moi le soir même, elle avait une soirée avec des copains et des copines. Et donc, je me cale dans mon canapé, et puis ben, je vis ma vie de post-opération où t'es quand même un peu mou, un peu de douleur. Donc, vraiment, je suis dans mon canapé à bouquiner et à manger genre des pâtes, quoi. Même pour être très précis, j'ai mangé des nuggets parce que je voulais un truc un peu genre, ok, c'est mon repas de mec tout seul chez lui qui vient de se faire opérer. Je m'autorise à manger des nuggets un peu cradingue. C'est le moment où c'est parti pour ça. Et je vois que, ah bah tiens, j'ai un premier. Oh bah, oh, et d'un coup, ça s'est affolé, mais de manière impressionnante. Et à ce moment-là, ça s'est affolé c'était pas lisible pour moi. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de choses, ça allait tellement vite, que je ne pouvais pas actualiser Twitter et me dire, je regarde tout ce qui a été posté. Vraiment, il y avait trop de choses. C'était physiquement impossible. Et je me suis un peu inquiété au début de me dire, bon, ça m'échappe un peu. Est-ce que, un, ça va trop m'échapper et je vais être harcelé pour de vrai? Est-ce que deux, je vais mal le vivre? Et vraiment, ça m'a questionné en me disant, ouais, je vais voir ce qui se passe, mais autrement, bah, à un moment, je ferme les vannes, je mets mon compte en privé, je bloque à pagaille tous les gens qui sont très désagréables, et puis je verrai ce qui se passe. Et très vite, j'ai eu à l'inverse pas mal de chouettes messages, soit de personnes qui témoignaient, moi qui disaient, ah bah je l'ai fait aussi, et ça s'est bien passé, ou ah mais non, attendez, vous avez tort, c'est comme ça que ça se passe, et pas comme vous le décrivez dans votre tweet. Ou de personnes juste qui apportaient un peu de soutien, de retweets de personnes cool. Et je me suis dit, ok, ça m'échappe très clairement toujours, mais en fait, je crois que ça fait plus de bien que de mal au global, que le sujet soit un sujet. Donc, vas-y, bah, je vais laisser le truc vivre. Très vite, il y a aussi un truc qui a été assez constant et assez important, mais c'est que les commentaires négatifs étaient... ok, négatifs, et en fait, ça me va très bien de prendre quelques commentaires négatifs. Et les commentaires vraiment agressifs et violents venaient de gens qui étaient tellement en décalage par rapport à mon univers et à mon monde que, en fait, bah, c'était ok. Très, très clairement, de, des gens climato-sceptiques ou extrêmement racistes qui sont pas d'accord avec moi et qui m'agressent, il y avait un truc oui, ok, on sera jamais d'accord, je pense qu'on vit pas dans le même univers. Et donc cette parole-là, extrêmement violente en demeurant, étonnamment, parce que je suis quelqu'un d'assez sensible dans l'absolu, m'a touché très très peu. Très vite, il y a eu un truc de « Moi, en fait, je m'en fous, dites ce que vous voulez et je le vivrai très bien. » Et donc, bah, et c'est un peu bisounours, hein, mais il y a eu vraiment ce côté de tous les trucs vraiment chouettes, tous les gens vraiment cool qui m'ont apporté du soutien, souvent en disant « Pardon, je dois être qu'une petite goutte d'eau et ça sert à rien, mais je voulais te m'envoyer un petit message pour te dire que bah, c'est cool ce que t'as fait, gros bisous. » En fait, on augmentait une jauge de manière beaucoup plus significative que les milliers de mecs vraiment énervés. Et à la fin, bah, c'était globalement positif, quoi. Épuisant, mais globalement positif.
Mais alors, t'es fait pour être influenceur, alors ? Parce que si t'arrives à filtrer naturellement, tu vois, toute la haine que t'as dû recevoir, parce qu'en vrai, t'as reçu beaucoup de haine, tu vois, t'es en mode un peu bisounours, mais il y a Miel qui demandait tout à l'heure sur le chat, j'arrive pas du tout à imaginer ce que c'est que les insultes que t'as pu recevoir. Tu peux en deux...
Il y a eu plusieurs tendances. La première et celle pour laquelle j'avais le moins de mal ou le plus de respect, on va dire, c'est qu'il y a eu pas mal de comptes très religieux qui étaient choqués par le fait de ne pas vouloir de faire de famille et d'avoir manipulé mon corps pour ne pas le faire. Qui était, ok, un truc que je partage absolument pas et j'ai pas ces croyances ni ces idéologies, mais ok, bah, agree to disagree, il n'y a pas de problème, c'est parti, quoi. Il y a eu, et ça c'était le pire, on va se mettre des deux côtés de la balance tout de suite, énormément de comptes extrêmement racistes qui voyait un déploiement de la théorie du grand remplacement. De « Vous, les Blancs, vous décidez volontairement de ne pas faire d'enfants, c'est le déclin de notre civilisation, pendant que les personnes en Afrique vont faire plein d'enfants et nous coloniser avec. » Ce qui était clairement le plus insupportable. Il y avait vraiment un truc... Ça, c'était au début un peu dur à lire, parce que c'était une surprise, et en même temps tellement crétin, ou du moins tellement pas un truc dans lequel... Ouais, voilà, il y avait vraiment un truc de « Ok, bah, ça marche. Je m'intéresse pas à ce que tu dis, sors de mon champ de vision. »
Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu peux avoir comme débat avec ce genre de...
Clairement, il n'y avait rien à dire. Il y avait pas mal de gens qui me reprochaient de l'avoir affiché sur les réseaux sociaux. Vraiment un truc de « Très bien, gros, il n'y a pas de problème, fais ce que tu veux. Pourquoi t'en parles, en fait ?» En y voyant notamment une propagande woke, et on y reviendra, mais ça vient aussi que dans mon tweet, j'ai utilisé pas le mot « homme », mais « personne avec un pénis », qui ça a trigger beaucoup de monde. Et enfin, là où j'ai eu le plus, c'est vraiment de la virilité et de la masculinité toxique pure. C'était bien que tu arrêtes ta lignée, espèce d'homme soja. Non, mais ils ont tous le même physique. Va un peu à la salle et après on en reparlera. Vraiment, des fois, des trucs. Un de mes préférés, s'il y a quelqu'un qui me dit, vas-y, t'inquiète, de toute façon, ça le chauve. Parce que j'ai une charlotte sur la photo, donc on a l'impression que j'ai pas de cheveux parce que j'ai une charlotte qui casse mes cheveux. Ou quelqu'un qui m'a dit « Non, mais quand on voit que tu portes un masque, on se rend compte que t'es un débile. » Avec un truc de « Je suis dans un hôpital, en fait, c'est obligatoire et c'est tant mieux. » Et donc tout ça s'est passé assez vite de « Ok, oui, en fait, on vit pas dans le même monde, on s'intéresse pas aux mêmes choses, on n'a vraiment pas le même prisme, on sera jamais d'accord sur quoi que ce soit. Je vais pas venir débattre avec ces gens-là parce que ça avait vraiment pas d'intérêt. »
On en parlait un peu avant de prendre l'antenne, n'est-ce pas ? Mais c'est vrai que globalement... Les réseaux sociaux, tu disais tout à l'heure que c'est sorti un petit peu de ta bulle et de ton monde, des gens que tu connais, des gens qui sont qui sont clairement d'accord avec toi d'une manière générale. Moi, il y a un truc qui me perturbe un peu dans les réseaux sociaux, c'est que de plus en plus, les algorithmes sont tellement bien faits qu'on a du mal justement à sortir de notre bulle. Sauf si sciemment, toi, de ton côté, tu te dis, ok, je vais aller suivre des comptes de gens avec qui je suis pas du tout d'accord, quoi. Et là, d'un coup d'un seul, t'es sorti clairement de ta bulle, quoi.
Ouais, clairement, j'ai été bombardé dans la bulle des autres, même. Et ce qui fait que, sur tous les gens vraiment très... sur les réactions très étonnées, sur les gens qui comprenaient pas le geste ou qui comprenaient pas le truc dans l'absolu, j'avais presque pas de jugement à avoir sur les personnes qui étaient surprises ou qui comprenaient pas le truc. Il y avait un truc de... Ok, j'ai été bombardé dans votre bulle parce que j'ai été trop retweeté. Vous comprenez pas le truc. Il n'y a pas de problème, quoi. Je suis certain qu'il y a des choses qui pourraient être retweetées et qui arriveraient dans ma bulle, que je pourrais trouver un peu violente parce que je comprends pas ce qui se passe. Et c'est pas pour ça que le geste dans l'absolu serait violent. Donc sur ces gens-là, c'était ok d'être un peu intrusif, enfin, que les gens trouvent un peu intrusif ma présence dans leur bulle à eux. Sur la bulle des autres, clairement, j'ai pas tout fouillé, notamment parce que Twitter filtre quand même un peu et donc là où tu vois passer les retweets, tu vois pas les commentaires dans les retweets. Et je suis allé voir un petit peu, mais pas tant que ça. J'en ai lu un peu, mais au final, je me suis quand même un peu préservé. Et j'ai vu après que ça avait explosé dans d'autres réseaux sociaux, notamment on m'a pointé quelques groupes Facebook où j'étais le sujet du jour, notamment des groupes survivalistes ou des groupes vraiment de droite-droite, quoi. Et là, je suis pas allé lire. Pour le coup, il y avait vraiment un truc de j'ai regardé un peu, j'ai fait « Ah, oui, ok, c'est les mêmes arguments et les mêmes trucs. Oh, vas-y, next, je vais pas non plus trop m'infliger ça parce qu'au bout d'un moment, ça sera très désagréable. »
Mais t'es Bouddha, mec. Non, mais c'est vrai que en gros, je crois qu'il y a un truc un peu toxique souvent quand c'est des témoignages qu'on a déjà entendus, en fait. Quand tu te retrouves face à un bad buzz comme ça, ou un buzz, peu importe, ce qui te fait vraiment te retrouver face à des... Puis moi, j'ai été le premier, hein, tu vois, quand je me retrouvais dans des bad buzz. Par exemple, j'adorais aller lire jeuxvideo.com qui détestait Mademoiselle et qui détestait le boss de Mademoiselle. Mais il y avait un côté un peu maso, quoi, tu vois, quand même, de venir te dire, OK, qu'est-ce qu'ils ont à raconter? Qu'est-ce qu'ils ont à venir dire sur moi, etc. Et je trouve que tu as un recul complètement fou, quand même. Bravo.
Je sais pas. Il y avait vraiment ce truc de ça. Ça allait pas m'apporter du bien. Donc, bon, je me suis dit, je vais pas le faire. C'était vraiment toujours les mêmes arguments qui étaient une absence d'arguments. Tu vois, j'ai été insulté d'homme soja, que j'ai découvert par le biais de ce moment-là, d'ailleurs, un nombre de fois incalculable. Et à un moment, oui, j'ai les cheveux là juste décolorés, mais régulièrement roses. Je ne transpire pas une masculinité extrêmement viriliste. Je suis végétarien, je suis en couple, je suis OK avec l'idée de l'homosexualité. Évidemment que pour ces gens-là, je suis le parangon de tout ce qu'ils détestent. Donc il y a un moment d'aller les voir et essayer de les convaincre ou même de lire leur avis, il y avait un truc de on sera jamais d'accord, quoi. Donc bon, autant pas le faire. Et un peu, j'ai pas le time, quoi. Il y a un moment, j'avais trop de trucs à faire, c'était pas intéressant. Et c'était même, au bout d'un moment, assez agréable de se dire, je vais pas répondre à tous ces mecs-là qui racontent n'importe quoi ou qui sont très agressifs, mais je vais prendre un malin plaisir à chaque fois que je vois un commentaire un peu intéressant ou un peu questionnant, même mal formulé, de quelqu'un qui dit, ah pardon, mais en fait, tu l'as fait sous anesthésie générale ou locale? Question que j'ai répondu 33 fois, je pense. Bah, à chaque fois, je me suis dit, je vais répondre. Bonjour, je l'ai fait sous anesthésie générale. Les deux sont possibles. Mon anesthésiste, ma conseillère générale, machin, gros bisous, quoi. Et je me suis dit, bah, tous ces gens qui ont besoin d'informations et qui le demandent, ils méritent, entre guillemets, que je prenne le temps. Et pour eux, je vais consacrer du temps. Et c'est pas mal de temps, quand même. Et puis, tous les autres, bah, en fait, je vais leur consacrer le moins de temps possible. J'ai un peu lu, mais je suis pas allé plus loin que ça. Parce que, bah, ils le méritent pas, en fait, quoi. Et de toute façon, et j'ai vu, il y a les seuls, le poste est encore un peu visible parfois. Parce que il y a des petites bagarres. Souvent, il y a deux ou trois comptes qui se bagarrent un peu en commentaire sur des questions idéologiques. Et il y a eu trois, quatre grosses batailles que j'ai vues passer où j'étais toujours en cité et en mention, donc je voyais passer les tweets. Et c'était souvent une personne plutôt de droite et une personne plutôt de gauche qui s'agressait à base de bah, espèce de facho, bah, espèce de wokiste. Non, mais de toute façon, t'es qu'un facho horrible. Non, mais de toute façon, t'es qu'un wokiste, tu veux le déclin de la société. Et à un moment, je me suis dit, bah, ces gens-là, je vais les laisser parler entre eux, mais moi, je ne peux pas intervenir, je n'ai rien à dire de spécial. Et de toute façon, aucun argument sur Twitter ne fera changer d'avis ces gens-là, donc bah, oui. Laissons-les aller en paix, et puis, c'est faire d'autres trucs, quoi.
C'est ce fameux dessin d'un mec qui est devant son ordinateur. « Chérie, tu viens te coucher ?»« Non, quelqu'un a tort sur Internet, je n'ai pas le temps. »
Et avec un truc de... J'ai conscience en plus que sur certaines questions... J'ai mon point de vue et je pense sincèrement avoir raison, mais je comprends aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas le même point de vue et ils n'ont pas fondamentalement tort dans l'absolu, quoi. C'est ouais. leur prisme et leur manière de voir le truc qui n'est pas la même. On ne sera jamais copains, on n'ira jamais en vacances ensemble. Bah, continuons de pas être d'accord et c'est pas si grave, quoi.
Ouais, je comprends. Tu vois, il y a des gens qui demandent c'est quoi un homme soja. Bah, c'est l'inverse d'un homme qui mange de la viande. Dans un barbecue entre gros poteaux, quoi. Voilà. Le dimanche, c'est pour caricaturer.
Il y a vraiment ça. Il y a ce côté soja égale végétarisme et donc personne efféminée. Et il y a toute une théorie qui a été réfutée d'ailleurs depuis, mais sur le fait que la consommation de soja augmentait le taux d'ostrogène et donc pouvait féminiser les hommes à grande échelle. Qui a été une théorie qui a été vachement questionnée par les nutritionnistes pendant des années et qui a été, je lisais encore un article sur ça et j'en parlais avec ma nutritionniste qui me disait que bah non, c'est vraiment pas un truc qui existe et c'est pas vrai, quoi. Mais ça a été un truc que pendant longtemps on se disait, si les mecs ils mangent trop de soja, voilà, ils vont se féminiser pour de vrai, quoi.
Alors, je sais très bien que c'est pas ton objectif de faire comment dire de l'information pour tous ces mecs, tu vois. Mais typiquement, moi j'ai maintenant que j'ai compris qu'en fait quand tu dis personne avec un pénis, bah en fait tu triggers tous ces mecs là et globalement en fait ce qui fait que tu ne peux plus leur parler, c'est-à-dire qu'une fois que tu as dit ça, après ils t'ont collé cette étiquette là. Moi j'ai arrêté, tu vois, d'utiliser ce genre de tournure beaucoup plus inclusive certes, mais qui en fait finit par exclure tout un tas de mecs. J'ai bien compris aussi l'une des grosses leçons de ce fabuleux buzz, c'est qu'il y a plein de mecs qui ne savent pas comment ça marche la vasectomie et qui ne savent pas comment marche d'une manière générale la contraception, quoi, masculine.
Et ça, c'était hallucinant. C'est vraiment un truc de, on en parlait hors antenne. Au départ, la première fois que j'ai été retweeté par quelqu'un qui a dit genre lol, l'homme soja, il s'est fait couper les couilles, je me suis dit oh là là, mais quel troll d'internet. Et puis bah, j'en ai eu un autre, et puis plein de questions sur, enfin plein de remarques sur le fait que bah, ma voix allait devenir plus aiguë. J'allais sûrement avoir moins de testostérone, être encore moins musclé, que ça allait rien changer sur mon corps de faible de toute façon, mais c'était horrible. Et j'ai compris qu'il y avait, je pense, pas mal de mecs qui pensaient premier degré que je m'étais fait sectionner les testicules, voire l'intégralité de l'appareil génital. Et donc il y a vraiment des mecs pour qui, et à ce moment-là je peux un peu plus me projeter sur la violence qu'ils ont vue dans mon tweet, pour qui c'était je venais de me faire littéralement couper les testicules et je l'affichais sur Twitter en mode hé, hey, coucou, lol, j'ai plus de testicules, gros bisous, je les ai enlevés volontairement, quoi. Et qui voyait ça comme un acte chirurgical beaucoup trop fort et comme une boucherie, quoi. Et en fait, ouais, ces mecs-là, clairement, ils avaient aucune notion de ce qui s'était passé pour de vrai. Et j'ai même pas eu besoin de l'expliquer parce que pas mal de gens l'ont expliqué naturellement sous ces tweets-là. Là où moi, je me suis un peu épargné, pareil, pour me faire du bien et un peu parce que je me suis dit que ça servait à rien, d'aller expliquer à ces gens de non, je me suis pas fait enlever les testicules. Bah, il y a plein de gens qui l'ont commenté. Et un des commentaires qui a été le plus retweeté sur mon post, c'est une personne qui dit, bah, attendez, un, il s'est fait enlever les testicules, machin, truc chouette, ça implique ça. Deux, ça implique ça. Trois, ça implique ça. Et qui était ultra pédagogue. Il faudrait presque que je lui envoie un message de remerciement. Je l'ai pas fait, mais elle le mérite très, très clairement parce qu'il y avait un truc de super, vous avez une question, vous pensez ça? Bah, allez voir ce commentaire. En fait, il a tout résumé et il a parfaitement raison, quoi. Mais c'était quand même vraiment une source de surprise d'imaginer que bah, des personnes pouvaient se projeter sur ça à ce point-là, quoi. De se dire, allez, c'est parti, il s'est passé ça, quoi.
Alors, ceci dit, moi, ça, donc là, t'as eu des mecs, tu vois, mais moi, je me suis retrouvé pendant 2 ans célibataire sur des applis de rencontre. Donc, a priori, aussi sur des applis de rencontre avec des femmes plutôt éduquées, entre guillemets, tu vois, un peu dans nos cercles aussi. Et donc, j'avais mis sur mon profil que j'étais vasectomisé. Sous-entendu, si tu veux faire des enfants, ce ne sera pas avec moi, désolé. Et j'ai reçu aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, et souvent des questions un peu bizarres, tu vois, du genre, est-ce que tu éjacules encore ? En même temps, c'est des vraies questions hein, auxquelles ouais. Il faut vraiment répondre, quoi, tu vois. Mais alors, est-ce que tu éjacules encore ? Comment ça se passe en termes d'érection, etc. Enfin, tu vois, et j'avais vraiment des questions, parfois même avec des personnes avec qui j'avais à peine parlé, qui venait limite me parler pour en savoir plus sur la vasectomie, plutôt que intéressé par mon profil. Mais ouais, il y a un vrai, vrai problème d'information et de connaissances quoi, par rapport à ça.
Et ça, clairement, j'ai été à la fois content de répondre à ces questions-là et à la fois étonné des réactions, des fois, à mes réponses. Notamment, il y a quelqu'un qui demandait effectivement comment se passait l'éjaculation après une vasectomie. Et donc, je ne sais plus, j'ai répondu, globalement, ça change rien. En termes de quantité, c'est la même chose. En termes d'aspect, c'est la même chose aussi. Globalement, il n'y a aucun impact direct, quoi. Et il y a vraiment des gens qui étaient choqués du fait que je parle de l'aspect et de la quantité d'une éjaculation. Il y avait un truc de « Ouh là 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 !» Et doucement, mon grand, quoi, on t'a pas demandé autant de détails, quoi. Et il y avait un truc de « Bah, en fait, je crois que c'est bon, en fait. On peut parler de ce genre de questions, surtout en des termes appropriés et en prenant le temps de faire le truc, de « Effectivement, je peux raconter ce qui se passe exactement. Il n'y a pas de problème, quoi. Je peux le faire et il n'y a pas de souci, quoi. » Mais j'étais étonné de la pudeur de certains et effectivement de plein de gens pensaient que bah derrière tu pouvais plus avoir d'érection ou tu n'éjaculais plus rien du tout, quoi.
Et alors pour info, c'est 5% du liquide spermatique, les spermatozoïdes, donc vraiment c'est invisible, hein, clairement, ouais. À l'œil nu. Voilà, comme ça on sait. Est-ce que tu as été remboursé?
Je sais pas encore, j'ai pas encore eu la facture, mais j'ai écrit, alors c'est clairement là c'était moi qui étais un peu, je me suis dit à un moment, je suis un peu débile quand même. J'ai envoyé un mail à mon chirurgien, je pense, 3-4 jours avant, disant « Bonjour, pardon, en fait, je me rends compte que j'ai oublié de vous poser une question qui est fondamentale. Ça va me coûter combien, en fait, tout ça ?» Et m'a répondu un truc genre « Bah, vous aurez la facture après, vous inquiétez pas. Normalement, vous êtes remboursé par la mutuelle et ça devrait vous coûter pas plus cher qu'une consultation. » Donc, a priori, normalement, ça devrait me coûter vraiment pas grand-chose en Belgique, sachant que le système de mutuelle est quand même assez différent de la France, où il y a une complémentaire de mutualité qui est obligatoire, que je paye dans tous les cas et qui va prendre en partie en charge mon opération. Mais à l'heure actuelle, je ne peux pas dire exactement combien ça m'a coûté précisément. Pour l'instant, ça m'a coûté 8,70€ de prise de sang et je ne sais plus, genre 30 balles de consultation avec mon urologue préliminaire, quoi.
Ok. Tiens, j'en profite pour placer un petit big up à, je crois, Miel tout à l'heure. Non, pardon. Quelqu'un a parlé d'un groupe, je remonte parce que c'était un peu plus haut. Si ça n'a pas déjà été dit, c'est l'EPACA Draconis. Merci beaucoup. Il y a un groupe Facebook qui permet, entre autres, d'avoir et d'échanger des témoignages, mais aussi d'avoir accès à un fichier qui regroupe les coordonnées des chirurgiens et chirurgiennes qui acceptent l'opération facilement ou plus ou moins facilement. Et ce groupe s'appelle stérilisation volontaire, entre parenthèses, ligature et survasectomie. Donc voilà, ça c'est, je trouve hyper important d'avoir accès à ce genre d'infos. Ça fait plaisir. Merci beaucoup les PACA. Comme ça, je mettrai également le lien dans les notes pour les gens qui écoutent le podcast. C'est très cool. Est-ce qu'il y avait autre chose sur lequel tu... Déjà, comment ça va, toi, en termes de...
Ça va. Il y a vraiment un truc en termes de sensations physiques, c'était un peu étonnant les premiers jours. Vraiment, je me suis réveillé de l'anesthésie. Bah, t'es groggy d'une anesthésie, mais au global, ça allait à peu près. J'ai pu aller faire une petite balade dans Bruxelles l'après-midi même, en marchant un peu comme un cow-boy, mais autrement, ça allait à peu près. Et je suis même allé, j'ai une prof de sport, et je suis allé la voir 2 jours plus tard, et on a fait une séance... sans m'allonger sur le ventre et en bossant un peu moins les jambes, ouais. Mais une séance assez classique sans qu'il y ait fondamentalement de problème. Le moment le plus dur, je sais pas comment toi tu l'as vécu, tiens, je suis curieux, mais c'est le moment où j'ai enlevé le pansement, parce que clairement ça fait un peu mal parce que c'est collé, même si tu le fais sous la douche, et de voir les cicatrices, même si elles sont assez légères. Ouah, il y avait un truc de, je suis sorti de ma douche, je me suis un peu assis sur mon tapis de douche pendant 5 minutes avant de me relever. Clairement, il y avait un truc de « Ouh, je suis pas bien là, quand même !»
On est vraiment des petites natures, les mecs. Hein. Putain, quand ouais. Tu penses à...
Et après, globalement, j'ai un peu mal. Mais c'est vraiment très, très léger. Ça passe de jour en jour. Pareil, je suis aussi curieux de ton retour, mais moi, j'ai eu les testicules assez bleutés pendant quelques jours. Je sais que ça arrive pas à tous les hommes, mais il y avait ce truc un peu bizarre où on se dit « Waouh, qu'est-ce qui m'arrive ? Vraiment, c'est bizarre. » Et aujourd'hui, c'est presque, il y a un truc un peu ludique de voir cette espèce de zone d'hématome qui réduit au fur et à mesure et qui change de couleur. C'est presque un peu joli. Quelqu'un a évoqué la dick pic sur Twitter en blaguant. Mais je crois que dans un monde où j'aurais eu un peu moins de haine, j'aurais été assez OK pour poster une photo post-anesthésie de mes testicules sur Internet juste pour dire, regardez, ça ressemble à ça. Vous voyez, c'est à peu près OK, quoi. En me disant, bah, en fait, j'aurais bien aimé, j'ai pas cherché, hein, mais j'aurais bien aimé voir à quoi ça ressemble si jamais j'avais été curieux à un moment ou à un autre. Mais au global, non, physiquement, j'ai repris une vie tout à fait normale. J'ai fait du vélo cet après-midi. Et il y a ce côté de, je sais que là, je vais être assis pendant 2 heures en parlant avec toi. Quand je vais me lever, je vais faire un peu genre, OK. Et si le truc le plus désagréable, c'est il faut régulièrement que je replace tout ça dans mon boxer pour que ça ne soit pas douloureux. Voilà. Quand tu te dis « je vais pas remettre mes couilles en place en public », c'est quand même un truc qui est assez peu élégant, bah là, t'as pas forcément le choix. Donc, il y a un côté de « tu uses un peu de subterfuge de main dans les poches pour essayer de faire ça de manière à peu près discrète, tout en l'étant pas terrible, mais je me dis « ok, c'est la période de ma vie où j'ai le droit de faire ça sans trop m'en vouloir ».
Alors, écoute, moi, de mon côté, je n'ai pas eu de pansement. Parce que bah je crois que c'était par exemple notamment le truc local, quoi, tu vois, donc j'avais des fils et les fils le ma chérie à l'époque m'avait dit, écoute, l'important c'est que tes fils soient pas mouillés quand tu sors de la douche, donc il faut que tu te sèches les couilles au sèche-cheveux. Et là j'ai découvert
oh mon Dieu,
genre vraiment un tout nouveau monde, mon gars, parce que jamais de ma vie je m'étais passé les couilles au sèche-cheveux avant ce moment. Et je me suis dit, c'est fabuleux de se passer les couilles au sèche-cheveux. Pourquoi n'ai-je pas fait ça avant ? Donc, 2019, j'avais 42 ans. Et je me suis dit, mais le nombre d'années que j'ai perdu à ne pas me passer tous les matins joyeusement les couilles aux sèche-cheveux pendant 2 minutes, ça fait plaisir, ça fait tellement plaisir. Donc voilà, c'est, je vois qu'il y a des gens qui suivaient Mademoiselle à l'époque parce que j'en avais parlé dans Laisse-moi kiffer, dans le podcast qu'on faisait. Mais oui, le sèche-cheveux était un pur, c'était vraiment fabuleux. Et globalement, moi, c'était marrant parce que j'avais la sensation que j'arrivais pas à me tenir droit pendant plusieurs jours. Où j'avais un peu la sensation qu'il fallait que si je me mettais vraiment droit, alors je crois que c'est à mon avis, c'est psychologique, hein, tu vois, parce que vraiment ce truc de, je sentais que mes couilles, elles étaient là. Ah! Et que si je me tenais de façon un peu moins droite, c'était là. Ah, ça va mieux.
Ouais.
Bref, pendant plusieurs jours. Et en fait, là où je pense que c'est vraiment, pour le coup, psychologique, c'est que, donc, quand je me suis fait opérer un lundi, et le lundi d'après, mon associé et mon pote est mort brutalement. Et en fait, le matin, j'avais encore, enfin, tu vois, je sentais encore, enfin, tu vois, comme là, ça fait à peu près une semaine pour toi, tu sens qu'il y a une gêne et tout, j'avais à peu près la même, quoi. Le gars est mort, d'un coup d'un seul, mes couilles, c'était plus un problème, quoi. Tu vois, j'avais arrêté de focaliser mon attention dessus.
Ouais, et ça.
Voilà, et ça m'a, ça fait d'autres choses à fouetter pour le coup. Et mais ouais, le coup de pencher un peu, c'était bien coolio, quoi. Ça, je me souviens à peu près de ça. Mais sinon, ouais, globalement, pas trop mal, hein, en vrai. C'était plutôt cool. Je crois que j'ai attendu 4 ans. J'avais vraiment peur, alors qu'en fait, non, c'était très chouette et très simple.
Oui, c'est globalement OK. Il y a ce côté désagréable d'avoir une cicatrice, enfin, du moins d'avoir une cicatrice, pas tant que ça, mais d'avoir des points pour l'instant, où c'est quand même un peu désagréable, c'est pas très joli, et il y a un truc un peu bizarre dans l'aspect esthétique pour l'instant, mais c'est comme après n'importe quelle opération, les trucs vont tomber, et puis ça ira mieux juste après, quoi. Donc,
non,
je crois que... Je note le sèche-cheveux, ouais, très clairement, je pense que je vais essayer demain. je pense que le moment le plus désagréable, mais aussi parce que je suis un peu trop perfectionniste et donc je me suis un peu inquiété de ça, c'est presque ce qui était le plus inquiétant pour moi. Mais je suis arrivé à l'hosto, une infirmière est arrivée, elle a pris ma tension, elle a pris mon truc, elle m'a dit vous êtes rasé, j'ai fait ah non on m'a pas prévenu, elle m'a fait ah bah faut vous raser, j'ai fait ok, quelle zone, elle m'a dit le plus possible, et là je me suis rendu ouah mais je fais quoi en fait quoi, et après elle est allée me chercher une espèce de petite tondeuse mais d'hôpital pas cher quoi, donc un truc où ils jettent la tête à la fin et où t'as ta tondeuse, et je me suis retrouvé à être... Il n'y avait pas de douche dans ma chambre parce que j'étais en hôpital 2 jours, donc à être sur un petit truc pour jeter mes poils à la poubelle et pas laisser un bordel sans nom, et à me dire, mais comment je fais ? Comment je fais pour que... Et j'y suis allé, je pense, 4 fois. Tu vois, je l'ai fait une première fois, je me suis dit, ok, c'est bon, je me suis installé, je me suis dit, ouais, non, je peux faire mieux que ça, je crois. On sait jamais, quand même, c'est important. Imagine, ils m'appellent et ils me disent... Bah, monsieur Rivière, voilà, on va pas pouvoir le faire, en fait, parce que vous étiez, ok, j'y retourne. Et donc, j'y suis retourné, j'ai continué mon affaire, et là, je me suis dit, peut-être qu'il faut que je descende plus bas. Donc, je suis descendu un peu plus bas sur mes cuisses, au cas où, tu vois, en faisant la plus grande zone possible. Et c'est presque ce qui m'a le plus stressé. Et je me souviens que, en m'endormant au moment de l'anesthésie, je me suis dit, ah, j'espère que ça va le faire, quoi. Et vraiment, il y avait cette petite inquiétude, là, quoi. Ça, c'était le plus dur. Donc, ça va.
Si t'avais su organiser un petit jeu avec ta chérie, tu vois, à base de tondeuse et de...
Allons-y. Il y aurait un moyen de faire ça beaucoup, beaucoup mieux, je pense, quoi. Mais c'était le truc le plus stressant, donc ça va. Et j'ai eu des super anesthésistes, par contre. C'était vraiment très plaisant. Le mec est arrivé, l'assistant de l'anesthésiste, il était jeune, avec les cheveux un peu longs, des piercings. Il m'a branché, genre, ah, ils sont pas mal, vos tatouages et tout. On a un peu discuté de ça. Bon, à la fin, il m'a dit, bon, je vous confesse, je vous ai un peu parlé aussi pour vous déconcentrer, c'est bon, tout est prêt.
Ouais.
Il y a vraiment un truc de, bon, dis donc, j'ai tellement passé un bon moment là, vous étiez tellement gentil, tout cela, que c'était pas mal pour ça aussi, quoi.
Écoute, moi, je me suis retrouvé à me faire poser de la bétadine sur les couilles par une infirmière qui était en train de me dire, et alors, il pleut hein, aujourd'hui, et alors, vous êtes venu comment ? Vous êtes venu à pied ou vous êtes venu en voiture ? Qu'est-ce qui est en train de se passer, quoi ?
Il y a quand même ce truc de, c'est tellement le quotidien pour le personnel soignant de traiter des gens, alors que toi, c'est tellement un truc que t'as pas l'habitude, qu'effectivement, il y a un aspect de, ok, bah oui, effectivement, c'est une journée presque normale pour vous, alors que pour moi, elle est bouleversante. Ok, bah, continuons de discuter normalement. Et moi, ça m'a amené vraiment une assez belle sérénité, tu vois, que tout le monde soit un peu relax, un peu gentil, sympathique comme ça. Il y avait vraiment un truc de, ok, cool, je suis entre de bonnes mains, ça va bien se passer, super.
Ah, c'est cool. Et pour être tout à fait honnête intellectuellement, Tonio que j'avais reçu dans mon Anthony donc que j'avais reçu dans le live qu'on avait fait ensemble, lui il racontait qu'en fait il était pas sûr encore que sa vasectomie ait marché. Et en fait effectivement elle n'a pas marché puisque son spermogramme est revenu, parce que dans quelques mois tu vas avoir cette joie d'aller te faire une petite branlette dans un labo, mon petit pote. Au petit soin, ça va être trop bien, vraiment. Et en fait, lui, son spermogramme n'a pas marché. Et apparemment, le chirurgien ne sait pas ce qu'il a coupé. Donc, comme quoi, ça peut être chelou aussi. Et il a fini par devoir repasser sur le billet pour que ça finisse par fonctionner, quoi. Mais c'est pas automatique, quoi.
Voilà. Ouais. Et ça, j'attends la suite. Ouais, effectivement, ça fait partie des trucs où pareil, je pense qu'il y a un mythe de genre, tac, c'est bon, t'es infertile, c'est parti, quoi. Alors qu'effectivement, tu as quand même des spermatozoïdes contenus dans ton sperme pendant un certain temps, qu'il faut un peu évacuer tout ça.
Trois mois, il faut passer 3 mois sans avoir, enfin, en gardant une contraception. Et après, si ton spermogramme revient négatif, c'est cool, quoi. Mais il faut vraiment faire gaffe. Et l'une des raisons pour lesquelles il y a aussi parfois des grossesses. Après vasectomie, c'est que il faut faire gaffe, quoi. Il faut vraiment faire très gaffe. J'ai mis plus d'1 an avant de faire mon spermogramme. Ah bon ? Et pourquoi ?
Et bah, dans Dupont, là.
Alors que c'est vraiment... c'est pas le moment le plus désagréable. Hein.
Et puis moi, je l'attends... Vraiment, il y a un truc de... Je l'attends avec impatience, non pas pour me branler à l'hôpital, mais pour se dire, OK, à partir du moment où c'est bon, ça veut dire que c'est bon, quoi. Ouais. Et donc là, il y a presque une petite frustration de se dire, j'aimerais qu'Élodie arrête sa contraception demain parce que c'est bon, je l'ai fait, quoi. Et que j'en chie assez pour qu'elle mérite d'arrêter sa contraception. Ouais. Mais non, il faut que j'attende encore un peu avant que ça se fasse, quoi. Donc.
Alors, le spermogramme, ça sert tout simplement à vérifier le nombre de spermes qui est contenu dans les spermatozoïdes. Et alors, moi, j'ai une petite anecdote marrante. C'est que je me suis retrouvé au labo. Et bon, je suis pas connu, Michel Drucker connu, quoi, tu vois. Mais je suis un peu connu sur une tranche très particulière, tu vois, de meufs qui ont entre, on va dire, 20 et 35 ans. Et la zouze qui vient me chercher, je le vois dans son regard, tu vois, parce que ça fait maintenant 15 ans, je le vois dans son regard qu'elle m'a reconnu, mais elle est hyper pro, vraiment. Elle me voit, je vois son sourire, je vois qu'elle voit, et elle est restée hyper chill. Et juste, je sentais vraiment qu'elle avait ce truc de « Oh putain, j'ai la meilleure anecdote pour la soirée du bar ce soir. » Je me suis retrouvé, je me disais, ok, bah, et donc elle m'a montré. Alors là, vous avez, et puis vous avez également un film, hein, voilà, c'est vraiment, c'est particulier.
Ouais, je raconterai peut-être sur Twitter, hein, pour le coup, ça ne dérangerait pas d'en reparler.
J'espère bien.
Je prendrai un peu de précaution pour que ça explose un peu moins.
Do Dupont, sorti de burn-out et ma femme était sous implant, donc pas trop de risques. Ok.
Ok, bon. Makes sense.
T'étais pas pressé, mais ok. Est-ce qu'il y avait d'autres choses dont tu voulais parler, Théo ? Parce qu'on a pas mal fait le tour. Hein.
Bah non, c'est pas mal, je crois. Je réfléchis à... Est-ce qu'il y a des trucs ? Non, pas trop. Vraiment, je pense que je suis assez content au final, si je dois un peu résumer, je suis vraiment content du mini-retentissement, parce que c'est quand même très léger, et la semaine prochaine, ça sera oublié pour sûr. Mais j'ai fait quelques petites interviews, dont celui-là, avec des gens pour parler un peu de contraception masculine. Ah sinon, les trucs vraiment très cool. J'ai une députée européenne à Bruxelles qui m'a contacté parce qu'elle passait, elle était en audience le lendemain de l'explosion de mon tweet pour parler de l'égalité homme-femme sur la contraception. Elle m'a dit, est-ce que c'est ok que tu sois un de mes exemples de ce qui se passe quand on le fait ? Je fais, évidemment que oui, bien sûr. Et la loi a été votée à l'unanimité quelques peu de temps après. Donc il y avait un truc de, ok, j'ai servi 0,01% dans tout ça, mais... Bah cool, ça valait vraiment le coup de faire ce tweet et de manger quelques petits torrents de haine parce que ça valait le coup pour ça aussi. Donc non, c'était vraiment chouette. Au final, je suis content de ce que ça a fait au final.
Le colibri, voilà.
Ouais, c'est exactement. Mais des couilles.
Il y a Foncé qui demande, est-ce que ça change quelque chose à votre sexualité du fait de ne pas risquer une grossesse non désirée ? Est-ce que ça libère quelque chose ? Pour l'instant, c'est encore un peu tôt, j'imagine.
Oui, pour moi, là, j'ai pas repris mes activités sexuelles à l'heure actuelle parce que j'ai un peu peur d'avoir mal et parce qu'ils m'ont conseillé quand même plutôt une bonne semaine d'abstinence du monde abstinence à deux, donc sur ça j'ai encore rien refait, donc j'attends avec impatience pour vraiment être franc, mais ça fait une petite pause fondamentalement, mais je suis pas certain que moi le questionnement c'est plus est-ce que l'arrêt de la contraception féminine, qui est quand même une bombe d'hormones potentiellement désagréable, notamment sur des questions de libido, va libérer ma conjointe de choses à ce niveau-là. On espère que ça va lui faire du bien sur tous les sujets, y compris sur celui-ci. Mais je ne sais pas si à mon niveau, ça va changer grand-chose. Quoi,
pour le coup. Pour parler de mon ex-femme, elle avait décidé de ne pas arrêter la pilule parce que ça, c'était plus simple pour elle. C'était une pilule micro-dosée, tu vois. Elle considérait que c'était plus simple. Mais en fait, moi, je me disais, bon, bah, c'est cool, au moins, tu as le choix. Tu peux choisir. Ouais. Et avec ma compagne actuelle, c'est un peu pareil. Et bon, après, on n'est pas ensemble depuis très, très longtemps. On est ensemble depuis 6 mois. Mais bon, on a quand même arrêté. Tu vois, on a fait des tests et tout. Et je la sens un peu... en même temps, elle voit les chiffres, elle fait « Ok, c'est 99,9%, donc ça veut dire quand même qu'il y a 0,1%. » Et en fait, ce 0,1%-là, il serait très chiant s'il arrivait. Je dis, ah, bah oui, c'est sûr. Donc, bon, je la laisse choisir, hein, tu vois. C'est ça, en fait, qui est cool, c'est que derrière, c'est elle qui peut choisir, quoi. Dans un des commentaires, en réponse au tweet de Théo, une femme disait que ça avait été assez dingue en termes de libido depuis la vasectomie de son compagnon. Eh bien, écoute... Théo,
je pourrais vous raconter dans 6 mois.
C'est tout ce que je te souhaite.
Bon, non, c'est vrai que quelqu'un parle aussi de charge mentale de la pilule. Et c'est vrai que moi, c'est un truc qui était aussi important. Et c'est marrant comme c'est minimisé par les mecs sur Twitter aussi. De hey, ça va, c'est un réveil sur son téléphone, c'est pas si important que ça.
Ben, on est alors que...
ouais. Et quand on sait que ça prend de la place et que ça prend du truc. Et je sais que c'est... Chez Elodie, ma conjointe, il y a quand même vraiment un truc de ça peut occuper son esprit un peu, elle peut se stresser parce qu'elle n'a pas pris sa pilule à l'heure fixe et qu'elle l'a oublié. Ça peut être un truc qui est assez désagréable. Donc je suis vraiment très pressé de lui supprimer ce truc nul qui lui tient pas énormément l'esprit, effectivement, mais quand même un peu, et d'arriver à un moment où, ok, bah c'est cool, t'as plus à te soucier de ça, quoi. Donc je suis pressé de ça.
Eh bien, écoute, effectivement, on pourra aller suivre tes lives. D'ailleurs, tout à l'heure. Viens, poste un petit message là pour dire si les gens veulent venir te suivre sur ta chaîne, où tu postes, tu live assez régulièrement. Hein.
Ouais, normalement, je fais des matinales les mardis et les jeudis pour parler principalement de création de jeux de société, sur comment ça se passe, un peu l'actu du monde du jeu de société, et puis montrer un peu comment est-ce qu'on crée des jeux, un peu mon actu à moi, ce qui se passe, vraiment un peu tout ça. Et il y aura demain, effectivement, Patrice, donc demain matin à 9h, n'hésitez pas à venir, on va papoter de tout ça. Et tiens, j'en profite, comme vous êtes un peu, à cette semaine d'ailleurs, je fais un live spécial vendredi, où je serai en live toute la journée sur ma chaîne, donc Théo_Sacha, avec un live caritatif, on va faire une espèce de marathon de dons pour une association dont je suis le parrain, qui s'appelle Accessijeux, qui est une ludothèque à Bercy, à Paris, qui s'occupe de transformer un peu les jeux de société pour qu'ils soient accessibles aux déficients et déficientes visuelles. Et donc, on va essayer de leur récupérer plein de pognon pour qu'ils puissent faire encore plein de belles choses. Donc si vous voulez venir ce vendredi, c'est le meilleur moment pour voir plein de trucs sur ma chaîne.
Merci beaucoup, Théo. Et je vais mettre le replay, en fait, tu vois, de ce live en audio sur le podcast Histoire de Mec. Ça fait toujours plaisir de parler de contraception masculine dans Histoire de Mec. C'est cool. Et puis, c'était vraiment très chouette. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est cool.
Avec plaisir. Merci à toi parce que tu es quand même un bon advocate pour la contraception masculine. Et encore une fois, c'est en lisant ton article et ton témoignage qui est un des trucs qui m'a donné envie de le faire aussi. Donc comme quoi, tous ces trucs-là et tous ces petits gestes ont un impact au global. Et puis, bah, merci de continuer de le faire et puis de m'avoir invité. C'était un grand plaisir de papoter.
Effectivement, ce sera qu'en audio. Et dommage pour le pull de Théo. Bah, les gens qui seront dans le podcast, ça leur apprendra. Il faudra qu'ils viennent sur Twitch pour voir ce fabuleux pull de Noël que Théo arbore. Oh là là, c'est la fin de journée. Merci beaucoup, Théo. C'était très cool. Un grand merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner au podcast dès maintenant pour ne manquer aucun épisode. Tu trouveras tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Tu pourras également retrouver chaque veille d'épisode un extrait qui, je l'espère, te donnera envie d'écouter l'épisode complet le lendemain. Si tu découvres et que tu aimes ce podcast, tu devrais aussi aimer mes autres podcasts. Je t'invite donc à aller voir dans les notes de cet épisode ou sur fabflorent.com, fabflorent.com, tu verras, il y a tout un choix. Je te mets aussi dans les liens comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles, comment te connecter à mon Discord, comment me contacter ou encore mes différents réseaux sociaux, etc. etc. Enfin, tu l'as quoi. Merci encore pour ta précieuse écoute et d'ici au prochain épisode, je te souhaite une très belle vie.